J'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème, et j'ai donné comme titre au message de ce soir « La sagesse ne craint pas la pauvreté ». Étonnant. La sagesse ne craint pas la pauvreté. Nous allons prendre un texte de l'évangile de Matthieu qui nous parle d'un moment où on vient demander à Pierre et à Jésus de payer des impôts. Ça vous est déjà arrivé d'aller à la boîte aux lettres et finalement de trouver une enveloppe où vous vous dites « je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas ». Si je l'ouvre, je sais à quoi m'attendre. Si je ne l'ouvre pas, je vais rester un peu sur les charbons ardents parce qu'on n'aime pas ne pas savoir. Non ? Vous êtes comme ça ? Dès que vous arrivez à la boîte aux lettres, vous dites « quelle est la nouvelle que je vais avoir ? Est-ce que je vais pouvoir... repartir heureux de ma boîte aux lettres ou malheureux. Je me rappelle d'un frère qui était dans l'église de Besançon et il me disait, frère, moi, j'ouvre jamais la boîte aux lettres, j'envoie toujours ma femme. Je disais, pourquoi tu ouvres pas ta boîte aux lettres? Il dit, j'ai peur d'avoir des impôts, des trucs à payer, donc je préfère envoyer ma femme. Et son épouse me disait, oui, ben comme ça, c'est moi qui prends en premier. Il dit, et quand je vois ma femme revenir à la base du visage, je lui pose la question ou je dis rien. Alors, parfois, on peut avoir tendance un peu à gérer les choses comme ça, mais c'est un peu l'autruche qui met la tête dans le sable, hein, et ça ne règle pas le problème. Moi, je ne sais pas vous, mais en tous les cas, les factures ne se payeront pas toute seule. Mais dans cette histoire, on a quelque chose de particulier qui va se passer, puisqu'il y a une manière de la part du Seigneur de venir miraculeusement payer un impôt. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Il dit « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes ?»« Si, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui répondit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Le fils sont donc exempts. Mais pour que nous ne scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater, donc une monnaie qui vale 4 drachmes, prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Amen. » Je lisais ce texte et je me disais, ça pourrait sembler un peu étrange, ce texte, au niveau de tous les miracles que Jésus a fait. Ça a été des miracles pour la guérison, ça a été des miracles pour la délivrance, ça a été des miracles pour intervenir dans des situations particulières. Pourquoi Jésus fait recours à un tel miracle pour payer les impôts? Et d'un coup, je me suis posé la question, peut-être vous vous êtes posé cette question avant moi, est-ce qu'il faut que je me mette à la pêche? Ça serait pratique, non? Alors, notre frère Bernard, apparemment, il y va. T'as trouvé combien de drachmes jusque-là? 0. Voilà. Parce que le tout, c'est pas d'aller à la pêche, c'est de prendre le bon poisson. Alors, dans ce texte, en effet, je me suis interpellé par rapport à ce texte. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? En effet, quand Jésus arrive à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressent à Pierre. Et finalement, ça nous rend compte qu'on est tous imposables. On a tous des impôts. Aujourd'hui, on dit qu'un enfant qui vient au monde a déjà des dettes. Vous le savez, on le sait, mais on ne va pas s'énerver avec ça. Mais lors de l'exode du peuple d'Israël, Dieu avait donné une règle. Moïse parle au peuple de la part de Dieu et leur demande finalement un tribut qui était donné par chaque juif, pour que finalement on puisse prendre soin de la maison de l'Éternel, qu'on puisse prendre soin. Donc c'était une règle qui était établie. Exode chapitre 30, versets 11 à 16, nous retrouvons cette loi. L'Éternel parle à Moïse et dit « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne. » Regardez bien le texte. « Une rançon pour sa personne lors du dénombrement. » De la sorte, lors de ce nombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vin Guérard, un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans au-dessus donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. Amen. Cet impôt ramène au temps de Moïse et à chaque fois qu'il y avait un recensement, les Israélites devaient payer finalement cette somme pour la rançon de leur personne. Il y a une dette. Il y a une dette, en effet, qui était sur chaque personne. Et sur chacun de nous, il y a une dette qui n'est pas seulement financière, mais avant tout spirituelle. Quand la parole de Dieu nous invite finalement à tenir compte de la nécessité pour nous de savoir que nous sommes finalement imposables, imposés par le péché que nous avons laissé finalement avoir un droit dans notre vie, nous avons besoin d'être rachetés, nous avons besoin d'être libérés de cette dette. La pièce qui était utilisée était une pièce qui pesait 6 grammes d'argent. Si vous faites attention dans la parole de Dieu, le chiffre 6 correspond à l'homme. C'est le 6e jour que Dieu créa l'homme, créa et le plaça dans le jardin d'Éden. Cet argent du rachat était un signe symbolique qui annonçait le rachat parfait, définitif que Jésus allait accomplir. À chaque fois qu'ils étaient recensés, eux, ils avaient une dette qui ne terminait jamais. Mais lorsque Jésus a payé notre dette, nous avons été rachetés une fois pour toutes. Quel bonheur, quelle délivrance, quelle joie. Cet impôt était le même pour tous, riches ou pauvres. Le montant était le même. N'oublions pas que devant Dieu, tous les hommes sont les mêmes. Dieu ne fait pas de différence entre la couleur de la peau, la question du poids, la question de la hauteur, la question de la quantité de cheveux, la question de la couleur des cheveux. Nous, on fait des différences. Non ? On a toujours tendance à classer les choses d'une certaine manière. C'est comme un besoin continuel dans notre vie de classer les gens entre gentils et pas gentils. Beau, pas beau. Bien, pas bien. Et finalement, on enferme un peu tout le monde dans des boîtes. Mais Dieu nous dit, voilà, l'impôt est le même. Riche ou pauvre, pour Dieu, ta vie a la même valeur. Et devant Dieu, chacun d'entre nous, nous avons une dette à payer. Ce n'est pas parce qu'on est riche que finalement on peut se dire « je suis exonéré » puisque pour faire de la richesse, j'ai dû beaucoup travailler. Non, non. Devant Dieu, chacun d'entre nous est amené à devoir prendre sa part pour le rachat. Mais Jésus entend la réponse de Pierre puisque Pierre il est interpellé par ces hommes qui viennent voir finalement qui va payer ses dettes. Sachez que c'était une règle pour tous ceux et celles qui étaient pratiquants, ils devaient payer cet impôt. Et finalement, on vient voir Pierre et Pierre il répond d'une manière directe. Oui. Et il rentre à la maison. Mais je me suis demandé, est-ce que Pierre finalement, est-ce qu'il avait l'argent pour payer ? À votre avis ? Non. Hein ? Parce qu'autrement, le Seigneur aurait fait de manière qu'il y ait une pièce pour payer pour lui. Et ça prouve aussi que parfois, on se lance dans des choses sans bien réfléchir. On pourrait finalement contenter des aspects religieux sans forcément répondre aux questions de Dieu. Et là, le Seigneur interpelle Pierre en lui disant, « Pierre, écoute, j'ai une question pour toi. À ton avis ? Dans un royaume, qui paye les impôts ? Les enfants du roi ou les étrangers ?» Ah, il dit, les étrangers. Et alors, tu n'as pas considéré que le fils des rois est exempt de tout impôt ? En effet, le Seigneur est en train de lui dire, attention, certes, les hommes, eux, ils ont une rançon à payer, mais celui qui n'a commis aucun péché n'a aucune rançon à payer. Finalement, Jésus lui l'amène à réfléchir qu'il fallait se poser les bonnes questions et toutes les lois que Dieu a données avaient avant tout une raison spirituelle. Même par ça, Dieu voulait finalement rappeler au peuple le fait que faire partie du peuple de Dieu, il y a un prix qui sera payé. Quand on a de l'argent, si on doit payer quelque chose, on le paye, mais bon, voilà. Hein ? C'est passé. On se dit, on a pu payer. Mais quand on n'a pas l'argent pour payer, c'est comme si la somme était multipliée et le fardeau était beaucoup plus lourd. Quand un homme est sans Dieu, n'a pas de moyen finalement de racheter sa vie. Et le poids est si lourd qu'il peut l'écraser. Le poids du péché, le poids de ses erreurs peut l'amener finalement à se sentir écrasé et à chercher une manière à fuir cela. J'ai appris que finalement, quelqu'un qui voudrait fuir, changer de pays, changer d'identité, peut le faire et on doit le laisser faire. Même dans le droit français, c'est prévu que quelqu'un puisse finalement partir sans donner de nouvelles à qui que ce soit. C'est son droit. Mais fuir, ça ne veut pas dire régler. On peut avoir fait des erreurs dans un endroit et se dire, au lieu de régler, je fuis. OK. Sauf que si le problème n'est pas réglé au fond de ton cœur, tôt ou tard, tes problèmes reviendront aussi là où tu as déménagé parce que la nature humaine fait qu'on revient toujours à nos vieilles habitudes. Et ça pourrait amener finalement à fuir d'un côté à l'autre de la planète. La parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu dans le texte de l'Ésode, que cet impôt était dû à Dieu. Alors, étant son fils, Jésus, lui, il n'était pas imposable. Ah, quel bonheur de ne pas être imposable, hein ? Alors, j'ai connu quelqu'un qui, quand il payait ses impôts, il attendait minuit moins une pour faire son versement, parce que ça lui pesait. Alors, c'était en francs, il devait payer d'impôts 40 000 francs. Alors, les jours qui précédaient le moment où il devait payer les impôts, je le voyais changer de couleur, devenir blême, être soucieux, pas de bonne compagnie. Il était tellement aigri et il me disait, moi, il y a des jours où je ne dors pas, des nuits où je ne dors pas, et parce que finalement, ça me pèse. Alors, on discutait un peu ensemble, je dis, mais qu'est-ce qui te pèse de payer les impôts et ceci et cela? Je dis, mais certes, tu payes une somme, mais tu ne réfléchis pas à tout ce que tu gagnes derrière. Oui, mais ça, non. Ça prouve qu'on a tendance à regarder à ceux qui, ça nous coûte, au lieu de penser à tout ce que ça nous rapporte. Et beaucoup de fois, autant qu'être humain, nous ne pensons pas à ce que ça nous rapporte d'appartenir à Dieu. On a tendance à se dire, qu'est-ce que ça va me coûter? Je dois renoncer au péché. Certes, venir à Jésus, ça veut dire renoncer au péché. Mais ô combien c'est bon d'être sous la bénédiction de Dieu. Ô combien c'est bon d'être sous la protection de Dieu. Et Dieu leur dit, tous ceux qui paieront n'auront pas de plaie. Hein? Il n'y aura pas de conséquences. Nous, parfois, on fonce la tête basse et après, on n'est pas content parce qu'il y a des conséquences. Les choses prennent des proportions. Si on avait fait le bon choix dès le départ. Dans ce texte, il est question de cet argent qui était pour le rachat de la personne. Mais Jésus, étant parfait et sans péché, il n'avait pas besoin d'être racheté. N'est-ce pas ? Cet impôt servait à l'entretien du tabernacle et du temple, mais Jésus étant lui-même le temple dans lequel Dieu était venu à notre rencontre, il n'avait pas besoin d'entretien. Jésus est le don parfait de la part de Dieu pour le salut des hommes. La parole de Dieu nous dira en Hébreux chapitre 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Il fallait finalement se rendre compte que toute action qui pouvait être menée, finalement, était avec une date de péremption. Tout sacrifice que nous pouvons faire, finalement, est inutile parce qu'il ne pourra jamais régler la dette. Cette semaine, j'écoutais, et c'est hier au journal, ces mairies qui ont reçu des donations des legs. Hein? Oh. C'est là qu'on se dit, qu'est-ce que je ferais si j'avais un leg? Ne te pose pas la question, comme ça tu dors mieux la nuit. Mais dans ce texte, il est surtout question pour nous de considérer que parce que Jésus est le Fils de Dieu, parce que Jésus, il est parfait et sans péché, et parce qu'il est lui-même le temple du Dieu vivant, à cause de ces trois raisons, Jésus est venu offrir. Il n'aurait pas dû payer, mais il a choisi de payer. Et dans le livre aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 9 à 12, il nous dit ceci. « Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. » C'est la raison pour laquelle Jésus seulement, et Jésus seul, pouvait régler notre dette et nous racheter. Il était nécessaire qu'un sacrifice soit accompli une fois pour toutes, pour que chacun de nous, nous soyons finalement libérés. Et je vous rappelle que cet impôt n'était pas un impôt sur la fortune, n'était pas un impôt sur tel ou tel sujet, l'impôt sur la propriété. Non, c'était pour le rachat de sa personne. On aime bien dire qu'on est libre, non ? Mais quelqu'un dont il doit payer un prix pour ce rachat, finalement, il est esclave. Si on devait payer un impôt pour nous racheter nous-mêmes, ça veut dire qu'on est esclave. On n'est pas libre. Et finalement, la parole de Dieu nous parle de l'homme qui est esclave du péché, mais à cause du sacrifice de Christ, finalement, la liberté nous a été offerte. Pas à n'importe quel prix. Le prix le plus grand et le plus difficile à payer. Quand on doit payer nos impôts, ça nous coûte. Mais imaginez de vous trouver à payer l'impôt des autres. Qui irait demain à un guichet aux impôts et dire, écoutez, monsieur a des impôts à payer, je paye. Est-ce que vous êtes prêt à le faire, vous ? Dites-moi. Je cherche des volontaires. Hein ? Ah là, on se dit, non, attends, on ne sait pas ce que ça va nous coûter, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Mais c'est juste une question d'argent. Finalement, c'est quoi l'argent ? Dites-moi. Du papier, des pièces de métal, ok, on donne une valeur très souvent beaucoup plus grande que celle que ça vaut vraiment autant que métal. Hein, pourtant, la société a établi que ces choses ont de la valeur. Mais le jour qu'on sera devant Dieu, qu'est-ce qui a véritablement de la valeur ? La richesse qu'on a pu cumuler sur la terre ? Est-ce qu'on pourra dire à Dieu, tu vois, regarde, moi j'ai toujours payé mes impôts, donc finalement j'ai ma place au paradis. Je vous donne une information, vous pouvez l'écrire, la retenir. Le jour où vous serez devant Dieu, on ne vous demandera pas votre avis d'imposition. On vous demandera juste quelle est la place que Jésus a dans votre vie. Et c'est là que tout change. Et c'est là que finalement tout prend une autre image, une autre envergure, une autre situation. Alors Jésus fait un choix. À l'époque où un juif était reconnu comme un véritable pratiquant s'il respectait les traditions et les lois, Jésus, lui, étant exonéré de tout impôt, il aurait pu dire « Non, non, je ne règle pas. » D'ailleurs, si on avait été à sa place, si vous aviez été à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait ? Soyons vrais, qui aurait dit, puisque je suis exonéré, je ne paye pas d'impôts? Non? Daniel dit non, je vais payer, moi. Hein? C'est pas. Mais finalement, le Seigneur, il fait un choix. Parce qu'il arrive des moments où il faut savoir faire preuve de sagesse et surtout de ne pas être de scandale pour ceux qui nous observent. En analysant cette histoire, je me suis dit, c'est ça le sens de cette histoire, parce que finalement, il aurait pu rester cette discussion entre Jésus et Pierre. Non ? Ni vu, ni connu. Le poisson a payé. Tout est réglé. Pourquoi s'encombrer de mettre cette histoire dans la parole de Dieu? Mais finalement, Jésus donne un enseignement à Pierre et à nous aussi encore aujourd'hui. Parfois, la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'essayer d'avoir raison ou agir comme ceux du monde par des procédures, mais de les épargner de notre point de vue. Parfois, vous savez, on insiste, on considère qu'on a raison, et tant qu'on ne nous donne pas raison, ben, on martèle, on est là et on continue et... C'est un peu comme certains journaux télé, vous ne l'avez pas compris la première fois, ils vous le répètent, et 6 heures après, vous êtes là, c'est toujours le même sujet. Hein, c'est un peu comme ça. Comme ça peut arriver parfois dans la vie, quand on arrive à un certain âge, parfois on oublie ce qu'on a dit. C'est la mémoire immédiate. Hein, et dans ces cas-là, on dit, ben, il radote, il répète. Je me rappelle de ma grand-mère, les derniers temps, à chaque fois qu'on allait la voir. Alors, tu habites où? En France. Et ta femme et tes enfants, ils sont là. D'accord. T'as mangé? Oui, tout va bien, t'inquiète pas. Et alors, t'habites où? Et on pouvait passer un long moment comme ça. Hein, et c'était presque répondeur automatique. Si ça vous arrive, vous faites quoi? Dites-moi. Vous répondez une fois, deux fois. Après, ça commence quand même à fatiguer. C'est-à-dire, on ne peut pas changer de sujet, sauf que la personne, elle est bloquée sur ça. Et on peut être un peu comme ça. Quand on a quelque chose, on peut nous-mêmes se bloquer sur un sujet et finalement le faire payer à tous ceux qui sont autour. Parce que dès qu'on nous croise, quel est le sujet? Ce point-là, t'habites où? Tu fais quoi? Ta femme, tes enfants? Alors, il y a des choses qui peuvent finalement pas seulement nous éloigner des autres, parce que c'est ce qui se passe, non? Finalement, ils nous renferment dans une forme de prison personnelle, mentale, morale, psychologique, parfois même spirituelle, et finalement nous éloignent des autres. Et Jésus ne voulait pas être éloigné des autres, parce qu'il est venu pour sauver le monde. Certes, il aurait pu utiliser ses arguments pour expliquer que finalement, ben, lui, en tant que prophète, n'avait rien à payer. Il aurait pu utiliser des arguments, finalement, pour bien faire comprendre les choses. Et à quelque part, ben, Pierre, il se serait dit, ah, c'est super de ne pas payer impôts. Mais Jésus a une méthode différente. Parce que aimer, c'est aussi ne pas choquer, étonner, troubler les autres, quand même si nous avons raison. Et j'ai trouvé dans cette attitude de Jésus quelque chose qui nous enseigne. Qui nous enseigne à avoir une attitude qui ne ramène jamais les autres à être choqués, peut-être d'une position erronée. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il est dit ceci, « Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Waouh! On le relit. Prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Le Seigneur nous enseigne finalement et la parole de Dieu et nous rappelle que être en paix et rechercher le bien demande parfois de faire passer l'amour pour les autres avant le désir d'avoir raison. Car à force d'insister, le résultat ne serait que catastrophique pour l'œuvre de Dieu, mais aussi pour notre témoignage. Lâcher prise. Parfois, lâcher prise, on se dit, c'est difficile, parce que, surtout quand on sait qu'on a raison. Quand on a tort, c'est vite fait. Hein. Moi, j'aime pas recevoir les PV. Un jour, j'étais sur une voie rapide et j'étais, vu la constitution de la roue, j'étais sûr que c'était une autoroute. Et normalement, j'aurais dû pouvoir conduire à 130. Et j'étais à 110. Sur l'autoroute, on aurait presque pu me faire un PV parce que j'allais trop lentement, non ? Presque. Et d'un coup, je vois un flash. Alors je me suis dit, ça y est, il y a les paparazzi, photos sur le journal, non ? Et en effet, je n'ai pas fait à temps de rentrer de la pastorale que le PV est déjà arrivé à la maison. Et ma femme, elle prend le PV, elle me regarde de loin, elle me dit, tu sais ce que c'est ça ? J'ai dit, non, mais tu vas m'éclairer. Un PV. Tu t'es pris un PV. Alors j'explique le pourquoi du comment. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais le régler. Et j'ai vite fait d'aller le payer, régler comme ça, histoire de tourner la page. Un jour, c'est mon père qui emprunte la voiture de mon épouse. Ils étaient en visite chez nous en France. Et en Italie, quand vous avez les panneaux qui indiquent qu'il y a un radar, c'est juste un leurre. Il n'y a rien derrière. Hein. Et lui, il faisait la route, il a vu ça. Il a dit, c'est comme en Italie, ils ont la même méthode. Et il a été surpris de se faire flasher. Et en rentrant à la maison, il disait, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire ? J'ai dit, t'as averti. Eh bien, t'aurais dû retenir l'avertissement. Oui, mais en Italie, c'est pas comme ça. Oui, mais t'es pas en Italie. Tu es en France. Un avertissement, c'est un avertissement. Ça peut arriver que l'appareil ne marche pas. Ça peut arriver que quelqu'un s'est donné à la déco de l'appareil. Mais pour autant, toi, tu es tenu à respecter la limitation de vitesse. Et dans le cas présent, comme la voiture était au nom de mon épouse, c'est mon épouse qui s'est fait retirer un point. Ah, quelle occasion pour moi. Parce que par la suite, dès qu'on parlait de paix, je dis, attends, qui c'est qui s'est fait retirer un point ? Ah non, mais c'est pas ma faute. Et vous voyez comment... Et finalement, je me rends compte que qu'on a tous une certaine tendance à vouloir justifier nos actes, à vouloir discuter, à vouloir... Parce qu'il y a des choses qui ont du mal à passer. Et des fois, on se dit, pour une seule fois où j'ai fait un écart, mais quand tu regardes les autres, regarde ! C'est pas logique. Qui n'a pas déjà dit ça ? Hein ? Les autres. Mais le Seigneur, c'est pas aux autres qu'il est en train de parler. C'est à toi. Parce que le jour où tu seras devant le Seigneur, c'est à toi que Dieu va s'adresser. Et c'est ta réponse et ta vie qui va passer devant le regard du Seigneur. Et ce soir, il y a des avertissements que Dieu te donne dans le sens de te rappeler que toi aussi, vis-à-vis de ta vie spirituelle, tu es imposable, tu as une dette. Si tu te présentes dans l'état devant Dieu, cette dette va t'amener finalement dans une situation de souffrance éternelle. La seule manière pour te libérer, te dégager, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, finalement, toi aussi, tu n'es plus imposable. Ah, quel bonheur ! Hein ? Quel plaisir de dire, Seigneur, je n'ai plus de dette sur mon dos. Il n'y a plus rien qui puisse m'oppresser parce que mon cœur a été affranchi, libéré. Le fardeau qui pesait sur mes épaules, il n'est plus. Je suis libre. Amen. Libre. Et je dirais même qu'à partir de là, on n'a même plus peur, finalement, de mourir. Puisqu'on sait où on va. La crainte de la mort, elle est souvent liée au fait de ne pas savoir où on va, ou en tous les cas de le savoir et d'avoir peur d'y aller. Mais quant au fait de se retrouver avec Dieu pour l'éternité, quand on lit la parole de Dieu, on voit ce que Dieu a préparé d'avance, n'est-ce pas ? Jésus dira lui-même, je vais vous préparer une place. Il y a différentes demeure dans la maison de mon père. Alors je ne sais pas si ce sera un F3, F4, F5, avec jardin. Non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va prendre soin d'établir des choses pour chacun de nous. Et croyez-moi, rien ne manquera. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de préparer, mais si on restait dans notre logique et dans notre dette vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'il en revient ? En Ésaïe chapitre 53, versets 7 à 10, encore une fois, la parole de Dieu nous dit pourquoi Jésus, bien des fois, il n'a pas voulu argumenter. Et il nous invite aussi à accepter la vérité sans trop argumenter. Parce que vous savez, ça ne servira à rien de vouloir défendre sa cause devant Dieu. Nous n'aurons pas raison. Les preuves, elles sont écrasantes. Il dit la parole de Dieu en Ésaïe 53, versets 7 à 10. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche, il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. Vous vous rappelez, il fallait payer rançon pour ne pas être touché par la plaie. Finalement, cette plaie les a atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Jésus a payé le sacrifice de culpabilité. Vous savez, cette culpabilité qui ne lâche pas ni jour ni la nuit. Cette voix qui nous rappelle ce que nous avons fait et qu'il ne fallait pas faire. Cette voix et cette pression qui nous rappelle tout ce qu'on aurait dû peut-être penser à faire et surtout penser à éviter. Quand on est enfant, les parents nous donnent beaucoup de conseils. C'est vrai ou pas, Hélène ? Vous en avez donné des conseils à vos enfants ? Ah, vous avez essayé. Hein ? On donne des conseils à nos enfants. Et en tant que parents, la chose la plus difficile, vous savez ce que c'est ? C'est de voir nos enfants ne pas les suivre, ne pas écouter nos conseils. Et il y a un moment où on est obligé de dire maintenant, tu fais tes choix, mais tu en assumeras aussi les conséquences. Ça nous pèse. Je ne sais pas si vous, ça vous pèse. Moi, je sais qu'à chaque fois que je discute avec mes enfants, je leur donne un conseil. Des fois, je vois la direction qu'ils prennent, ça me chamboule, j'évite, ça m'attriste. Et je me dis, Seigneur, moi, c'est des choses comme ça, mais combien ton cœur doit être attristé de voir le fait que nous, autant qu'hommes, on n'a pas écouté ton conseil. On n'a pas tenu compte ce que tu nous as dit. Et finalement, vous voyez, l'être humain, l'humanité, à cause de sa désobéissance, elle s'est attirée finalement des conséquences. Elle s'est attirée finalement une plaie. Qu'est-ce qu'est une plaie ? Ce n'est pas une cicatrice, hein ? C'est une blessure. Une blessure qui est encore ouverte et qui est infectée. Et qu'on essaie de soigner, mais qui continue finalement à créer, générer de la souffrance. Dès qu'on y touche, ça fait mal. Et tant que le Seigneur ne pose pas sa main, cette plaie n'est pas guérie. Nous, on essaye de gérer les choses comme on peut. Gamin, je me faisais mal de tous les côtés parce que je ne restais pas tranquille. Avec les copains, on montait sur les arbres, on allait sur les chantiers, on sautait du premier étage, on sautait sur les talus de sable, à celui qui sautait le plus loin. Alors je rentrais le soir, j'avais les genoux écorchés, je ne vous dis pas, et des fois on se soignait, on se pensait être capable de se soigner. On prenait des feuilles, on prenait du ça, on mettait ça dessus. Alors je ne vous dis pas les infections et tout ce que ça engendrait. Et parfois, nous, on compte soigner nos erreurs par nos méthodes qui, finalement, ne font que générer d'autres souffrances, voire augmenter. Et finalement, au bout, il fallait aller voir le médecin. Alors, moi et le médecin, on n'était pas copains. J'aimais pas le médecin. C'était comme ça. J'aimais pas parce que à chaque fois qu'il me soignait, il me faisait mal. Non ? Déjà, lui voir sortir la seringue, déjà, on n'était pas copains du tout. Mais il y a des choses, des réalités, qui peuvent nous faire mal. Ça peut nous faire mal de nous entendre dire « tu as mal fait ». Mais c'est par là que ça commence la guérison. On peut avoir face à nous quelqu'un qui est malade et qui ne reconnaît pas sa maladie. Et les médecins, ils vous diront « on ne peut rien faire ». Non ? Il faut accepter de dire « j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas facile. Et Jésus nous a laissé le choix. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle met en évidence le respect, certes l'amour de Dieu, la vérité, la sagesse de Dieu, mais aussi la liberté que Dieu nous donne. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 à 18, il écrit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Jésus, lui aussi, nous laisse le choix. Jésus dit « Moi, j'ai fait le choix de donner ma vie pour vous. Mais maintenant, c'est à vous le choix d'accepter mon sacrifice pour vous. Vous pouvez choisir. » Il dira dans la parole de Dieu, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. » Il y a un encouragement. Alors quand j'ai dit tout à l'heure que la sagesse ne craint pas la pauvreté, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 11 et 12, il y a écrit « La sagesse vaut mieux qu'un héritage. » Et même davantage pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La véritable sagesse, elle n'a pas peur de la pauvreté. D'ailleurs, Jésus, par sagesse, par amour, aussi par souci du salut de ceux qui étaient autour, a préféré payer quelque chose qu'il n'aurait pas dû payer. Et il dira à Pierre, va à tel endroit, tu lances ton hameçon, le premier poisson que tu prends, il y aura de quoi payer pour toi et pour moi. C'est une parole de foi, c'est un miracle, dans le sens aussi que, croyez-moi, quand on est obligé pour le salut, pour le bien des autres, parfois même de renoncer à notre droit, le Seigneur lui-même pourvoira et nous aidera d'une manière miraculeuse à régler les choses. Parce qu'il veut que nous soyons droits et que son témoignage, le témoignage de l'Évangile, ne soit pas remis en question. Le Seigneur pourvoira d'une manière ou d'une autre. Croyez-le, Dieu pourvoit. Et le début de la sagesse, c'est, vous savez ce que c'est ? Proverbe chapitre 9, verset 10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Connaître le Seigneur, connaître celui qui est capable de nous donner plus que nous avons besoin puisqu'il nous parle d'un héritage et l'héritage que nous recevons quand nous sommes à Christ, c'est l'héritage de la vie éternelle. Dimanche, on parlera d'héritage. Hein, on parlera de ce sujet. Parce que finalement, on ne considère pas ou peut-être on n'a pas pris la notion de l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Parfois, on ne mesure pas la valeur de ce que Christ nous a accordé. Mais ce soir, j'aimerais juste en arrêter là et demander est-ce que quelqu'un est prêt à choisir la sagesse pour ne plus craindre la pauvreté. Et la véritable sagesse, c'est le fait de mettre Dieu à la première place. De laisser Dieu gérer nos difficultés, nos problèmes. Dans le ministère, j'ai rencontré des personnes qui avaient un parcours très compliqué. Je me rappelle d'une jeune femme qui était venue me voir en m'expliquant que, par la force des choses, elle s'était surendettée. Surendettée. Très jeune. Elle et son mari vivaient sous cette chape. Elle reconnaissait pleinement d'avoir fait des erreurs. Elle ne disait pas « c'est à cause des autres ». Vous savez, elle s'était fait avoir par toutes ces publicités qui proposent des choses. Tu ne payes pas tout de suite, tu paieras après. C'est coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Moi, je dis « quoi qu'il en coûte, tu le payeras ». Bon, toute référence. Et c'était malheureusement laissé avoir. Parce qu'elle voulait tout ce que les autres avaient. Et finalement, elle s'est trouvée dans les conditions où les huissiers sont venus chez elle, ils ont saisi ses affaires, ils ont bloqué les comptes, ils ont conséquences difficiles à vivre. Et elle ne connaissait pas le Seigneur et elle essayait de s'en sortir de toutes les manières. Et un jour, elle est venue à l'église, elle a entendu parler de l'Évangile et elle a donné son cœur au Seigneur, en toute sincérité, en vérité. Elle a donné son cœur au Seigneur. Et quelques semaines plus tard, elle avait un rendez-vous pour essayer de trouver une solution. Elle me dit, « Pasteur, moi je sais que je dois régler mes dettes. Je suis prête à le faire, mais c'est lourd. C'est lourd et je suis fatigué, j'en peux plus. » Alors j'ai dit, « Écoute, c'est ce qu'on va faire, on va demander au Seigneur de t'aider. » Que le Seigneur intervienne dans l'histoire. Est-ce que tu crois que Jésus peut ? Oui, je le crois. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur te fera échapper à tes responsabilités. Non, non, je le sais, je le sais. Mais juste qu'on ait la possibilité de ne plus être écrasé. Les semaines sont passées, elle est allée à son rendez-vous. Et quand elle est arrivée au rendez-vous, la personne qu'elle avait en face, qui gérait son dossier, lui dit « Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. » C'est étonnant, mais vos créanciers nous ont appelés en disant qu'ils voulaient mettre fin à ce chapitre. Et donc, on a des entreprises, on a des sociétés qui ont mis fin à la dette que vous aviez avec eux. Voilà, maintenant, ce qui vous reste à payer, c'est ça. On va le régler de cette manière-là. Ça vous permettra tout à nouveau de recommencer à vivre normalement. Et elle est repartie de ce rendez-vous. Je vous laisse imaginer comment. Elle a pleuré et elle a partagé ce qu'elle avait demandé à Dieu, à cette femme. Elle a témoigné à la personne. Elle m'a dit, je vous le crois, je suis obligé de le croire, je n'ai jamais vu une chose pareille. Alors avec ça, je voudrais vous dire que quel qu'il soit le parcours qu'on a pu faire, le pardon de Dieu est un pardon unique, total, complet. Et là où même nous avons nos responsabilités assumées, le Seigneur nous demande de les assumer, il est aussi capable de faire des miracles pour nous. Et si ce soir on allait devant le Seigneur en disant « Seigneur, viens régler ». Alors on a parlé des dettes, on a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais juste parler de ça parce que des fois il y a un problème, c'est que notre dette elle n'est pas financière. C'est une dette morale, humaine. On a peut-être une dette avec quelqu'un à qui on doit pardonner. On a une dette avec quelqu'un à qui on doit demander pardon. Parfois, c'est une dette avec nos propres enfants à qui un jour, on a peut-être dit des choses très dures, peut-être même vraies, mais nous avons tout cassé. Et je crois que c'est important de dire, Seigneur, aide-moi à régler ma dette. Seigneur, aide-moi à remettre les choses dans le bon ordre. Hein ? Je vous ouvre mon cœur. Il y a quelques années de cela, avec mon fils aîné, je n'étais pas d'accord dans la direction qu'il prenait. Ça me faisait mal au cœur et je me suis renfermé sur moi-même. Et finalement, quand mon fils appelait, je ne répondais pas. La seule personne avec qui il parlait, c'était sa maman. Et un jour, Dieu m'a repris dans mon cœur et m'a dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» tu vas perdre ton fils. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, quelle folie. Certes, ce que je lui ai dit est vrai. Certes, j'ai raison. Mais est-ce que cette raison vaut le prix de ma relation avec mon fils? Ça vaut le prix d'un fils? Et ce jour-là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai appelé mon fils. Et je lui ai demandé pardon. Et je lui ai dit, écoute, je te demande pardon parce que je me suis entêté et je me suis enfermé au lieu de te laisser m'expliquer. Et le Seigneur a rétabli les choses. Moi, je crois dans ce Dieu qui rétablit. Vous savez, je ne vous dis pas ça pour... Non, c'est vraiment du profond du cœur, c'est du vécu. Et je me dis, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de grâce. Alors peut-être qu'il y a une situation qui vous concerne et qui fait que cette histoire pourrait être la vôtre. J'en sais rien, ne faites pas de copier-coller, mais présentez-vous devant le Seigneur et laissez le Seigneur vous parler. Et si le Seigneur vous dit, allez, relâche la dette. Vous connaissez l'histoire de cet homme à qui on remet une dette. Et je crois qu'une fois qu'on nous a remis une dette, nous aussi on est en mesure, et je dirais même en devoir, de remettre la dette aux autres. Parce que c'est de cette manière que finalement on montre qu'on a compris la valeur que ça d'être à Jésus-Christ. Amen. On va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux. Seigneur, aucun homme est suffisamment sage par lui-même pour pouvoir finalement s'écarter de toute erreur, éviter toute embûche, ne jamais pécher, ne jamais se tromper. Seigneur, chacun de nous, nous avons finalement besoin, Seigneur, de cette œuvre de rachat. Étant tombé comme esclave du péché, esclave, Seigneur, de cette chair qui nous amène, Seigneur, bien des fois à prendre, désirer, chercher ce qui nous ne revient pas. Seigneur, la seule manière pour nous d'être libérés de cette dette une fois pour toutes, Seigneur, c'est de devenir tes enfants. Seigneur, je te bénis parce que ce n'est pas moi qui suis venu te chercher, c'est toi. Seigneur, jamais j'aurais pu imaginer que ce Dieu si grand, si merveilleux, souhaitait que je puisse devenir son enfant. Et pourtant. Et encore ce soir, Seigneur, quelle qu'il soit la condition dans laquelle nous nous trouvons, tu nous appelles à t'appartenir, à nous donner à toi. Et finalement, Seigneur, de sortir de cette imposition liée au péché et être libre du péché. Seigneur, quel qu'il soit le parcours des uns et des autres, tu as dit dans ta parole que tu, Seigneur, tu inviteras à toi tous les hommes. Ton désir, c'est de sauver tous les hommes. Seigneur, ta volonté, c'est de sauver tout être humain qui finalement reconnaît ses fautes, se repent et te donne son cœur. Alors ce soir, Seigneur, je te prie d'entendre la prière de ceux et celles qui souhaitent, Seigneur, devenir ton enfant. Souhaite, Seigneur, tu puisses les libérer, les affranchir de cette dette énorme. Seigneur, que ta main soit sur chacun de nous, Père, en ce moment même, et que le Saint-Esprit puisse interpeller les cœurs. Pendant que nous restons dans cette attitude, je voudrais inviter ceux qui voudraient ce soir dire au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, à lever leurs mains et on va prier ensemble, tout simplement. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Béni sois-tu. Oui, j'ai vu votre main. On va prier, on va demander au Seigneur. Seigneur, merci d'avoir, Seigneur, affranchi par le sacrifice de Christ tous ceux qui viennent à toi. Seigneur, lavé par ton sang et purifié par le prix qui a été payé à la croix de celui qui n'avait pas, lui, de dette, mais qui a réglé la nôtre, celui qui nous a rachetés au prix de sa propre vie. Ce soir, Seigneur, je te prie d'accueillir dans ton peuple ceux qui ont levé leurs mains en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur, merci de ta grâce et de ta miséricorde. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.